Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Stéphane Carpentier. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Isabelle. Bonsoir à tous. Ravi de vous ouvrir les portes de RTL Soir en ce vendredi. 2 heures d'infos en direct pour tout savoir et tout comprendre de l'actualité. Avec ce soir une question qui va nous occuper tout le week-end. Emmanuel Macron va-t-il craquer et reconfiner Paris, l'Île-de-France et ses millions d'habitants alors qu'un francilien est admis en réanimation toutes les 12 minutes. Dans les hôpitaux, on pousse les murs. On va devoir transférer des patients par les airs ou via les rails. Ajoutez à cela qu'on manque déjà ou encore de doses de vaccins. Les professionnels de santé avaient pronostiqué le pire pour la mi-mars. Nous y sommes. Il y a un mois, le professeur Pialoux déclarait « on va droit dans le mur ». L'infectiologue de l'hôpital Thénon à Paris sera notre invité. Constat, état des lieux et inquiétude en direct à 18h15. Soyez tous les bienvenus. RTL Soir débute avec les grands titres et le journal. Bonsoir Amandine Bégaud.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Et dans un instant, on partira pour le palais de justice de Paris où Gérald Darmanin est actuellement entendu. Confrontation pour le ministre avec celle qu'il accuse de viol. Dans ce journal également, la justice qui valide les repas sans viande à Lyon. Les jumeaux de plus en plus nombreux. Un bébé sur 29 désormais en France. Et puis les Césars, bien sûr, 46e cérémonie. C'est ce soir dans un contexte bien particulier. Stéphane Boutsock est sur place pour RTL.
Vos incontournables d'ici 20h dans RTL Soir. Éric Brunet a des choses à nous dire. Sa liberté de parole, c'est 18h50. Et on défait le monde. Actualité détendue à partir de 19h15 avec Cyprien Sini et compagnie. Avant tout cela, le ciel. Bonsoir Claire Delorme.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous.
Demain, nouvelle perturbation.
Exactement. Donc le parapluie et même le coupe-vent seront absolument les indispensables de ce week-end, puisqu'en effet, au menu donc de la pluie, du vent jusqu'à 90 km/h, le sud. Quant à lui, sera un petit peu plus épargné avec du soleil et des températures stationnaires allant jusqu'à 17 degrés encore vers le pourtour méditerranéen.
Merci Claire.
RTL Soir.
Et d'abord, si vous le voulez bien, petit retour en arrière. Souvenez-vous, c'était il y a un an, jour pour jour.
Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermées.
Le 12 mars 2020, Emmanuel Macron annonçait le premier vrai tour de vis pour faire face au Covid. Un an plus tard, le 12 mars 2021, il est ce soir question de reconfiner l'Île-de-France. Bonsoir Vincent Derosier.
Bonsoir.
Plusieurs signaux vont dans ce sens.
Oui, les hôpitaux craquent, les médecins s'affolent et le scénario du reconfinement de la région parisienne prend de l'épaisseur. Un membre du gouvernement croit même savoir qu'on se dirige tout droit vers cette option, possiblement en début de semaine prochaine. Mais attention, prudence, reconfinement week-end total. L'exécutif n'a rien décidé parce qu'au sommet de l'État, on craint surtout que les franciliens rejettent massivement ces nouvelles restrictions. En fait, l'état d'esprit au sommet de l'État, selon plusieurs proches, c'est désormais un jour de gagné est un jour de gagné. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le Premier ministre se rend en ce moment à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il va visiter un service de réanimation, soutenir les soignants, bien sûr. Et Jean Castex devrait dire qu'il reste une toute petite marge de manœuvre avant un éventuel serrage de vis. Un peu d'espoir, donc, mais très mince à la veille d'un week-end qui s'annonce crucial. Et s'il faut reconfiner, Emmanuel Macron a fixé 2 lignes rouges. Il ne veut pas fermer les écoles et les aides économiques aux salariés et aux entreprises doivent se poursuivre encore et encore, le fameux quoi qu'il en coûte. Un an après, il y a comme une impression de déjà-vu.
Vincent Derosier du service politique de RTL. En attendant l'urgence, vous le disiez, c'est désengorger les services de réanimation. Olivier Véran l'a dit hier, des transferts de patients vont avoir lieu dès ce week-end. Arnaud Touche, on va utiliser pour ça tous les moyens de transport ou presque.
Oui, à commencer par les hélicoptères et les avions sanitaires. Certains décolleront dès ce week-end pour transférer des patients de la région Île-de-France vers d'autres départements moins touchés. Mais ce n'est pas tout. Selon nos informations, 2 TGV sont en cours de préparation dans un technicentre francilien. Les opérateurs de la SNCF démontent les sièges et transforment les rames pour accueillir des patients. Ces rames seront prêtes d'ici mardi au plus tard. Mais le processus est désormais rodé, confie un cadre de la compagnie ferroviaire. À bord, les dossiers sont enlevés et la voiture barre est transformée en centre opérationnel. Les rames peuvent accueillir une 20aine de patients, mais ce TGV médicalisé est beaucoup plus long à organiser que les évacuations par les airs. Tous les malades ne sont pas éligibles au transport en train et les familles doivent être prévenues bien en amont. Au total, 10 transferts par TGV médicalisé ont eu lieu depuis l'année dernière. Cela a permis de transporter 202 patients dans plusieurs villes de France.
Arnaud Touche, sur le front de la vaccination, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, se veut ce soir, Amandine, rassurante.
Il n'y a pas de raison, dit-elle, de ne pas vacciner avec l'AstraZeneca. Même chose du côté du laboratoire qui insiste, lui, sur un point, rien ne prouve que son vaccin augmente le risque de caillots de sang. Après la suspension décidée hier par plusieurs pays, certains s'interrogent toutefois. Illustration à Marseille, où l'on vous retrouve, Étienne Baudu.
Sur le parvis de la mairie, hein, sur le Vieux-Port, deux files d'attente clairement identifiées. L'une devant deux tentes que les marins-pompiers ont montées le week-end dernier. Là, c'est la file pour le vaccin AstraZeneca. Dans l'autre file, devant la salle des mariages transformée en centre de vaccination, c'est celle pour le vaccin Pfizer. Et dans cette file, Georges et Anna se disent malgré tout plutôt rassurés.
On cherche à se faire vacciner par n'importe quel moyen, mais pas par n'importe quel vaccin. Ah, moi, c'est Pfizer. On est un peu plus certain que c'est un peu plus convenable, à mon avis.
Nous, on a pris rendez-vous, il n'y avait que celui-là. Oui, et ensuite, j'estime que c'est celui qui a été le mieux testé.
Alors, dans l'autre file, hein, celle de l'AstraZeneca, un autre public plus jeune à qui est destiné aussi ce vaccin. Alors, évidemment, hein, ceux qui sont trop inquiets ne se seront sans doute pas déplacés. Les autres, comme Josiane et son fils, Denis, ont toute confiance en ce vaccin.
Le milieu médical français ne déconseille pas ce vaccin pour l'instant, donc on le fait.
Delphine, elle est venue avec son mari qui, lui, a déjà reçu une injection.
J'étais pas du tout inquiète, de toute manière. J'y vais sans aucune appréhension. Voilà, il m'a servi de cobaye.
Voilà, enfin, il y a Teresa pour détendre l'atmosphère. Alors, Teresa, AstraZeneca ou Pfizer ?
C'est dommage, je ne suis pas morte, je vous revenez et vous me posez la question.
Il faut garder l'humour. Étienne Baudu à Marseille pour RTL. Et puis deux infos encore à retenir à propos de cette crise sanitaire. L'Italie d'abord qui va reconfiner à partir de lundi. Fermeture des écoles, des bars et des restaurants. Et ce jusqu'au 6 avril au moins, soit après le week-end de Pâques. Et puis Disneyland Paris ne rouvrira finalement pas le 2 avril. Hein, c'est ce qu'annonce aujourd'hui le parc qui est, on le rappelle, la première destination touristique privée d'Europe.
18h06 dans l'actualité également ce soir. Gérald Darmanin au palais de justice de Paris.
Confrontation avec celle qui l'accuse de viol. Bonsoir Anne Lehnaff.
Bonsoir.
Vous êtes sur place pour RTL. Les faits remontent à 2009, mais c'est la première fois que le ministre de l'Intérieur et celle qui l'accuse se retrouvent face à face.
Oui, cela fait 4 heures maintenant qu'ils sont en présence de leurs avocats respectifs dans le bureau de la juge qui instruit cette plainte pour des faits qui sont donc vieux de 12 ans. À l'époque, Gérald Darmanin a 26 ans. Il est chargé de mission au service des affaires juridiques de l'UMP. Sophie Patterson-Spatz, elle, a été condamnée pour chantage envers son ex et elle aimerait bien faire annuler cette condamnation. Elle demande donc un coup de pouce à Gérald Darmanin qui lui aurait promis de l'aider en échange de faveurs sexuelles. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Elle raconte une soirée qui commence au restaurant à Paris, qui se poursuit dans un club échangiste et se termine par une nuit à l'hôtel. Elle dit s'être sentie contrainte de passer à la casserole. Lui a toujours affirmé que cette relation était libre et consentie. Dans le dossier, il y a plusieurs échanges de SMS dans lesquels le désormais ministre de l'Intérieur insiste ensuite pour la revoir, pour boire un verre. Leur version s'oppose donc radicalement sur ces faits plutôt anciens. Sophie Patterson-Spatz a porté plainte il y a 4 ans. Une première plainte classée sans suite, elle en dépose une deuxième. Gérald Darmanin a lui aussi porté plainte contre elle pour dénonciation calomnieuse.
Anne Le Hénaff en direct du Palais de justice de Paris pour RTL.
18h08 en ce vendredi. Dans un instant, la justice qui valide les menus sans viande à Lyon. Amandine Bégaud revient juste après ça.
RTL Soir. RTL Soir. Avec Stéphane Carpentier.
Et Amandine Bégaud pour la suite du journal. C'est donc Lyon et la justice qui donnent son feu vert aux menus sans viande dans les écoles.
Le tribunal administratif rejette la requête déposée par plusieurs parents d'élèves, par des élus de l'opposition et un syndicat agricole. Tous contestaient la décision du maire écologiste de la ville. Écoutez, Mélanie Hamon, c'est l'avocate justement de la FNSEA et des parents d'élèves.
C'est une nouvelle en demi-teinte. La décision est toujours en vigueur jusqu'au 9 avril prochain. Il a décidé de ne pas suspendre compte tenu de l'échéance précisément au 9 avril prochain, en considérant du coup qu'il n'y avait pas urgence à suspendre une mesure qui, par définition, arriverait très prochainement à échéance. On va rester très vigilants pour voir ce que fait la ville de Lyon et si elle compte pérenniser cette mesure. Pour l'instant, ce n'est pas un échec et on continuera jusqu'à l'annulation de cette mesure qui, clairement, n'est pas justifiée par des circonstances locales, selon nous.
Des propos recueillis pour RTL par Valentin Boissé. Vous l'avez peut-être constaté autour de vous, il y a de plus en plus de jumeaux. Un tiers de plus aujourd'hui que dans les années 80. La multiplication des aides à la procréation, bien sûr, y est pour quelque chose, Guillemette Franquet.
Sur les photos, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Rosine a bientôt 50 ans et depuis toujours, sa jumelle Valérie, c'est sa meilleure amie.
L'avantage des jumelles, c'est qu'on n'est jamais seul. On est toujours avec quelqu'un, enfin, Être à deux, c'est aussi plus simple pour affronter l'inconnu, pour affronter un groupe.
Alors, quand Rosine a elle-même eu des jumelles, c'était avant tout une grande joie.
C'est donner des biberons ensemble, faire des doubles câlins, lire des histoires, avec en face deux bébés qui posent des questions et qui sont super intéressés.
Et si dans le monde, les jumeaux sont de plus en plus nombreux, c'est parce que les femmes ont des enfants plus tard et les couples ont plus souvent recours à l'assistance médicale à la procréation, particulièrement dans les pays développés, explique le démographe Gilles Pison, un des auteurs de l'étude.
En France, par exemple, le taux de gémellité a doublé au cours des 40 dernières années. Dans les années 70, il y avait moins de 9 accouchements sur 1000 qui étaient des accouchements de jumeaux en France. Et au cours des dernières années, on était à plus de 17 pour 1000.
Soit un enfant sur 29 qui naissent actuellement en France.
Un bébé sur 29, c'est énorme. Explication et reportage signé Guillemette Franquet. On passe au sport, Stéphane ?
Avec plaisir.
Avec le Paris Nice qui se terminera finalement dans l'arrière-pays niçois, les Vins, et non comme c'est la tradition sur la promenade des Anglais. Décision prise après le prolongement du confinement le week-end à Nice. Aujourd'hui, c'était la 6e étape. Victoire du Slovène Roglic qui conforte son maillot jaune.
Et puis les handballeurs français vont tenter, eux, de décrocher leur place pour les JO de Tokyo.
Un tournoi qualificatif qui débute ce soir à Montpellier. 3 matchs en 3 jours et la pression est forte. Des Jeux sans eux, c'est inimaginable. D'autant plus forte cette pression que Guillaume Gilles et ses joueurs n'auront pas le soutien du public. Les matchs, forcément, se jouent à huis clos.
Dans le sport professionnel, le public est une composante indispensable, essentielle, un vrai carburant. Si la fédération s'est battue pour obtenir l'organisation de ce TQO, c'est parce qu'elle souhaitait bénéficier du soutien populaire, de l'ambiance d'une grande salle qui pousse derrière son équipe. Le public aurait joué un rôle essentiel. Donc là, à huis clos, les cartes sont bien redistribuées. On ne pourra pas compter sur le soutien de nos supporters. Ils seront derrière leur télé à pousser avec nous et on pensera à eux.
Guillaume Gilles, le sélectionneur de l'équipe de France de hand au micro RTL d'Isabelle Langer, première adversaire des Bleus, la Croatie, un gros morceau. Le match, c'est ce soir à 21h.
Autre rendez-vous du soir, la 46e cérémonie des Césars.
Et on part tout de suite à l'Olympia où l'on retrouve Stéphane Boutsock. Bonsoir.
Bonsoir Amandine, bonsoir à tous.
C'est vous qui allez nous faire vivre cet événement ce soir sur RTL. Et Covid oblige, vous avez dû vous soumettre à un protocole très strict.
Oui, César, sous haute surveillance sanitaire tout d'abord. Chaque personne qui entre dans l'Olympia, dont l'équipe RTL évidemment, a dû produire un test PCR négatif datant de moins de 48 heures et en subir un autre antigénique avant d'accéder à la salle. À l'intérieur, seules 150 personnes environ, remettants et nommés, seront admises. Donc pas d'accompagnants ni de conjoints ce soir. Pas de public non plus. La grande salle de l'Olympia sera occupée de fauteuils espacés, regroupés par 3, 4 ou petites rangées, avec des tables façon cabaret. Oubliez aussi le traditionnel tapis rouge et le photocall réduit au strict minimum. Très peu de journalistes donc auront accès à l'Olympia. Nous sommes assez vernis. Et puisqu'on va aussi surveiller, scruter même, c'est l'ambiance générale de cette 46e édition, surtout après le chaos de l'an dernier. Alors oui, pour la nouvelle équipe aux commandes de l'Académie des Césars, il fallait organiser cette cérémonie, histoire de dire que le cinéma était toujours un art vivant, malgré 6 mois d'écran noir l'an passé, confinement et reconfinement oblige. L'idée, en fait, vous voyez, c'est une fête en attendant des jours meilleurs qui vont bien finir par arriver.
Oh ben oui, ça, on l'espère. Merci beaucoup, Stéphane Boutsock, en direct de l'Olympia. Cette cérémonie des Césars, ça sera bien sûr à suivre dès 20h sur RTL. La bonne nouvelle ?
Allez.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Et du cinéma, encore une bonne nouvelle pour les fans de la série Kaamelott. Le film Kaamelott, très attendu et signé Alexandre Astier, sortira finalement le 21 juillet. Ça y est, on a la date. Alors ce film, au départ, il était prévu pour sortir le 29 juillet 2020, puis repoussé au 25 novembre de la même année. Là, donc, si tout va bien, ce sera cet été. On croise les doigts.
Une bonne nouvelle avec Amandine Bégaud qui revient vous informer tout à l'heure. 18h30, bien sûr, toute l'actualité, vous avez tout à disposition, c'est sur l'appli RTL. Vous restez bien là. Est-ce que ça va reconfiner en Ile-de-France ? En tous les cas, ça craque. On commence cette actualité avec l'infectiologue Gilles Pialoux, le professeur, qui se connecte. Il est avec nous juste après ça. À tout de suite.
RTL Soir.
RTL Soir.
Avec Stéphane Carpentier.
Merci à vous tous d'être là. Ça craque donc en Ile-de-France. Va-t-on vers un reconfinement de Paris et de la région alors qu'un francilien est admis en réanimation toutes les 12 minutes? Le professeur Gilles Pialoux, infectiologue, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon à Paris, est donc l'invité de RTL Soir. Bonsoir professeur.
Bonsoir.
Merci d'être connecté. Pour commenter d'abord, s'il vous plaît, les mots d'Olivier Véran. Écoutez, le ministre de la Santé, c'était il y a pile 24 heures.
D'ores et déjà, nous préparons des transferts importants de patients vers les autres régions qui pourraient avoir lieu dès cette fin de semaine. Quand je dis important, c'est qu'on parle là de dizaines, voire de centaines de patients qui pourraient être évacués de l'Île-de-France vers d'autres hôpitaux, d'autres régions du territoire national.
Olivier Véran, hier soir, le ministre de la Santé annonçant des transferts de patients par dizaines, par centaines, vers d'autres établissements dans des régions moins impactées. Professeur Pialou, c'était inévitable.
Ben c'est inévitable parce que effectivement on est en train de se remplir et que la situation d'organisation politique de cette gestion de la pandémie nous laisse nous remplir par les réanimations. Donc oui, on a plusieurs solutions. Hein. Il y a les solutions des EVASAN dont vient parler le ministre, mais après il y a toujours le problème de la faisabilité. C'est-à-dire que, si je peux préciser deux éléments qui sont importants, qu'on a discuté aujourd'hui en cellule de crise, ce ne sont pas n'importe quels patients de réanimation qui sont mis dans des trains, des avions, des hélicoptères. Mmh. C'est par définition les patients les moins graves, les plus stables. Donc ça veut dire que ça alourdit considérablement la charge de travail sur les réanimations franciliennes. C'est le premier élément.
Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, professeur Pialou, quand on n'appartient pas à votre monde, c'est pourquoi un an après, nous en sommes au même point, c'est-à-dire que nous n'avons pas plus de lits de réanimation dans notre pays.
Bah parce que le problème des lits, là, par contre, c'est 15 ans de politique sanitaire de fermeture de lits et de non-priorisation, si je peux dire, ou d'attractivité de l'hôpital public. Et c'est pas maintenant qu'on peut régler ce problème-là en un an, malheureusement. Parce que le problème n'est pas d'ouvrir des lits, et le problème, c'est de les armer. Et comme de les armer en personnel, hein, je veux dire, personnel médical et non médical. Et comme vous le savez, il faut 4 ans pour former une infirmière en réanimation et presque 10 ans pour former un réanimateur. Donc, on est dans cette dimension-là et on est piégé. Cette pandémie nous piège dans un hôpital public qui était lui-même déjà à saturation. Et vous savez que la crise de la Covid est arrivée juste après la crise de l'hôpital public, précisément. Donc, on vit ça, effectivement, et on n'a aucune réserve. On n'a aucune réserve en personnel. C'est-à-dire qu'on a les intérimaires, on a du personnel comme ça, mais on n'a pas de réserve. On est obligé de se débrouiller par nous-mêmes et de faire en fermant des blocs opératoires, en déprogrammant et pour récupérer du personnel et armer les réanimations et les lits de soins critiques, comme on les appelle.
Transférer des patients, expliquez-nous, professeur, des dizaines, peut-être des centaines, c'est quoi? C'est repousser les problèmes, quelques jours de répit?
Ben nous, cette information nous a un peu tétanisé parce que déjà, c'est très compliqué d'organiser les transferts. Hein. Vous l'avez vu dans la première vague. Mmh. Nous, on a eu des malades qui sont partis avec le SAMU 56 vers la Bretagne. Là, ça sera d'autres destinations, semble-t-il. L'Occitanie qui a été décidée, l'Aquitaine, les Pays de Loire. Mais tout ça s'organise au cas par cas. C'est aussi des drames. Hein. Des drames pour les équipes soignantes qui perdent des malades qu'ils ont suivis pendant des semaines. C'est des complexités pour les familles. Et puis, c'est une complexité... Excusez-moi, c'est une complexité logistique. Il ne vous a pas échappé que dans cette crise de la pandémie, ce n'est pas sur la logistique que la France a été la plus efficace.
Il y a un mois déjà, Gilles Pialou, vous étiez alarmiste sur la situation. Je me souviens vous avoir entendu dire ceci, souvenez-vous.
Effectivement, on va dans le mur parce qu'on n'a pas de marge de manœuvre sur le personnel. On n'a pas de marge de manœuvre sur le personnel. Et ça a été dit encore par plusieurs intervenants. Quand on dit 67%, 75% de la
réanimation... Professeur, on va dans le mur, nous y sommes là ce soir.
C'est-à-dire que la différence avec la première vague, c'est que les choses sont montées extrêmement vite et que là, on est dans une marche progressive. Mais vous avez vu les chiffres. Vous avez vu, par exemple, les chiffres en Seine-Saint-Denis sont tout à fait préoccupants. Hein, ils sont à 130% 130% de l'occupation de la réanimation, avec des incidences très élevées. C'est une population... Je parle de la Seine-Saint-Denis parce que on sait pas que la problématique de Paris. Hein. Mmh. La Seine-Saint-Denis, c'est la population, une des populations les moins vaccinées de France. Hein, 3,6% de vaccination. Et c'est pas Dunkerque, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a 1,654 million d'habitants. Donc oui, moi la phrase que je dirais aujourd'hui, c'est que la situation ne peut qu'empirer, parce que de toute façon, il faut des semaines, quelles que soient les décisions politiques, il faut des semaines pour descendre du niveau où on est actuellement et qui est très élevé.
Vous parlez de décisions politiques. Vous, ce soir, vous méditez pour quoi? Pour un reconfinement dur, national, 7 jours sur 7?
Sincèrement, vous le savez, vous me l'avez rappelé très gentiment, j'ai été parmi ceux qui effectivement ont le plus milité pour un confinement. Là, la question est de quand. Le conseil scientifique l'avait recommandé dès le mois de février, en expliquant que plus on le retardait, Et ça, les Français ont du mal à le comprendre. Alors, je comprends, j'entends le discours. Il faut que les réanimations soient totalement pleines ou voire surpleines pour que les Français acceptent quelque chose qui est effectivement difficile à accepter. Mais la réalité de terrain, elle est que les Français vont bien se rendre compte que saturer les réanimations, c'est diminuer l'offre de soins pour toutes les maladies. Déprogrammer, ça touche toutes les pathologies. Donc oui, bien sûr, je pense que le confinement est inéluctable, donc j'ai pas changé. Après, c'est une décision politique à un niveau de toute façon qui sera très élevé, qui mettra des semaines avant de diminuer dans plusieurs régions qui sont les plus impactées, notamment je pense aux Hauts-de-France aussi et à d'autres régions, PACA, etc. Donc oui, on est et vous avez vu aussi que le discours politique et le discours scientifique actuellement sont un peu parallèles et il faudrait qu'ils convergent, quoi.
Comment nous expliquer ce soir, Gilles Pialoux, que ça ne cesse d'augmenter en Île-de-France? Est-ce que c'est le variant anglais qui gagne du terrain? Est-ce que les franciliens, les parisiens ont baissé la garde?
Non, je pense pas qu'on puisse mettre ça sur le dos des franciliens. Enfin, on n'a pas d'éléments pour ça. Par contre, très clairement, on a un autre élément d'inquiétude. Je suis désolé, mais c'est que l'âge des gens en réanimation diminue.
On est à 60 ans, là, maintenant?
25% au moins de 60 ans. Et en Île-de-France, c'est 17,5% qui ont entre 40 et 50 ans. Donc, bien sûr, j'entends l'hypothèse positif selon lequel effectivement ça sera un effet de la vaccination sur les personnes les plus âgées, j'entends. Mais voilà, être en réanimation intubé ventilé pendant 3 semaines entre 40 et 50 ans, c'est pas tout à fait la même chose. Et en plus, clairement, il y a des données anglaises. Je réponds à votre question. Oui, c'est clairement lié aux variants. Et il y a des mauvaises nouvelles venant d'Angleterre sur une augmentation de la gravité de la maladie et pas seulement de la transmissibilité avec ce variant anglais que, évidemment, personne n'avait prédit ou vu venir ou modélisé. Une augmentation d'un facteur 1,6. C'est-à-dire le variant anglais serait 1,6 fois plus grave que le variant classique issu de Wuhan.
L'ennemi du moment, c'est quoi? Sont les interactions, les rassemblements, les réunions d'amis, de famille? Il faut appuyer lourdement sur le frein, il faut arrêter tout ça, là?
Je pense que c'est une pédagogie, mais qui va probablement avoir lieu, et je pense que le président de la République va sûrement s'exprimer là-dessus. C'est que on a un gap entre ce qu'on a imaginé être une protection globale, une immunité collective, comme on dit, qu'on n'aura pas avant des mois et des mois. En plus, le variant anglais augmente le niveau d'immunité collective. Probablement qu'il faut 80% de gens immunisés. Voilà, il y a des gens qui ont modélisé ça. Donc, on a un gap énorme qui ne va pas être comblé par l'arrivée des traitements qui arrivent, effectivement, certains traitements qui sont chargés d'espoir, mais pour l'instant c'est quand même des traitements très avec des données très préliminaires. Donc ça veut dire que la France est condamnée, un, à diminuer le niveau de pression sur l'hôpital par tous les moyens possibles, et deuxièmement, effectivement, à remarteler qu'on ne peut pas se passer des mesures barrières, d'autant plus que ce variant est plus transmissible. Donc effectivement, il va falloir repasser les messages. Bon, là, c'est pas le cas aujourd'hui pour les beaux jours, mais dès lors que effectivement, il va et l'idée de miser sur le fait que on arriverait aux beaux jours et qu'on aurait un printemps, c'est utopique. C'est-à-dire que on va avoir des mois très difficiles. Là, le mois de mars est parti pour être extrêmement difficile. Le mois d'avril probablement aussi. Et on n'aura pas l'accès à cette immunité collective qui pourrait nous donner une aération, mais qui viendra un jour, bien sûr.
Merci de nous avoir éclairé, professeur Gilles Pialoux, infectiologue.
Je suis désolé, mais c'est pas le sentiment est pas c'est juste la réalité.
C'est la réalité du terrain que vous connaissez parfaitement. Chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Thénon à Paris et invité de RTL Soir. 18h27, merci d'être là. Dans un instant, c'est toute l'actualité et un regard sur le ciel du week-end.
RTL Soir.
18h30.
RTL Soir. Avec Stéphane Carpentier.
Et ce qu'il faut retenir de l'actualité avec Amandine Bégaud.
Et la France donne ce soir son feu vert à un nouveau vaccin, 4e, le vaccin Johnson & Johnson. Il présente au moins un avantage sur les autres, une seule injection suffit. Sur le front des restrictions, l'hypothèse d'un reconfinement de l'Île-de-France ressurgit au plus haut niveau de l'État. Jean Castex, le Premier ministre, est en ce moment même en déplacement à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Sur RTL, le professeur Gilles Pialoux se dit ce soir très préoccupé. La situation, dit-il, ne peut qu'empirer. Aujourd'hui, explique le médecin, 17,5% des patients en réanimation en Île-de-France ont entre 40 et 50 ans, ça fait presque 1 sur 5. Reconfinement qui a d'ores et déjà été décrété en Italie aujourd'hui, il sera effectif à partir de lundi. Dans l'actualité également, Gérald Darmanin au palais de justice de Paris pour une confrontation avec celle qu'il accuse de viol. Et puis c'est l'événement ce soir sur RTL, la 46e cérémonie des Césars, ce sera à suivre dès 20h.
Merci Amandine, très beau week-end à vous. Bien sûr, toute l'actualité, c'est directement sur l'appli RTL. Météoscope, le temps des prochains jours avec Claire. D'abord, ce week-end très agité. Hein.
Oui, c'est un week-end perturbé, donc avec de la pluie et du vent. Donc ce sera sans regret hein, pour les zones qui sont concernées donc, par le confinement. Et donc dans le détail, au lever du jour, on aura cette perturbation qui va concerner donc, la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France. Et puis progressivement, elle va glisser vers les pays de la Loire, donc vers le Poitou-Charentes, le centre Île-de-France et le Grand Est. Et puis à l'avant de cette perturbation, donc ce sera donc beaucoup de nuages, mais vous allez voir aussi progressivement que les pluies vont gagner la Gironde, les Landes, le Massif central ainsi que la région Rhône-Alpes. Donc la bonne nouvelle, c'est que le pourtour méditerranéen, lui, est vraiment en marge de la perturbation avec des éclaircies majoritaires, éclaircies aussi qui vont gagner les Pyrénées et l'Occitanie. Puis à l'arrière de cette perturbation, on retrouvera progressivement un ciel de traîne avec de nombreux passages nuageux porteurs d'averses, mais aussi quelques timides éclaircies. Par contre, Stéphane, il va y avoir encore beaucoup de vent. Ça a soufflé aujourd'hui, ça va souffler demain avec des pointes à plus de 90 km/h encore. Mais bon, cela ne vous concerne absolument pas puisque vous êtes indécoiffable.
Oui, c'est ça. Hein, merci. Après, la semaine prochaine, Claire, le défilé des pluies continue. Hein.
Oui, le défilé des pluies continue puisqu'en effet, à partir donc, de lundi, ça sera encore un temps bien humide. En revanche, pour dimanche, ça sera quand même une accalmie temporaire, donc il faudra bien profiter de cette journée. On va retrouver encore un peu d'instabilité vers le quart nord-est ainsi que près des Pyrénées. Mais sinon aussi, à partir de mardi, ça sera un temps qui sera majoritairement nuageux, encore de l'instabilité vers l'est du pays. Mais par contre, ça va commencer à se rafraîchir. À partir de jeudi, on va retrouver des gelées dans le nord avec 0 degré. Donc moralité, l'hiver n'est pas fini.
Merci Claire Delorme, Météoscope, c'est dans RTL Soir. Attention les amis, dans 45 minutes, c'est toute l'équipe dont défait le monde qui prend les commandes de RTL Soir avec en chef de bande, car oui, il a le gabarit d'un chef de bande. C'est Cyprien Sini, actualité détendue, on apprend des choses dans la bonne humeur. Quel programme Cyprien ?
Programme chargé ce soir puisqu'on vous fait découvrir le commando de l'espace de l'armée française. Et oui, au-dessus de nos têtes, on prépare la guerre des étoiles, rétro-laser en action. Dans On défait le monde, vous saurez tout sur la guerre des satellites. On essaiera aussi de comprendre pourquoi les politiques se prennent de passion pour les réseaux sociaux préférés de vos amis les jeunes, Twitch, TikTok. On allumera la lumière sur ce phénomène étrange, ça vous fera du bien Stéphane. Dans On défait le monde, il y aura aussi Yannick Jadot, Donald Trump et un sandwich rillette. Et également le multiplex des Césars. Oui, régulièrement, on sera en direct de l'Olympia dans les coulisses des derniers préparatifs de la cérémonie avec Stéphane Boutsock. On voulait le prendre là, mais il n'était pas aux lignes. On ne sait pas où il est. Il est en train de fouiner quelque part. Enfin, on vous fera évidemment gagner un cadeau. Alors ce soir, une tablette tactile connectée pour télécharger l'appli RTL, évidemment, mais pas que. Alors à tout à l'heure, 19h15 précise.
Pour le coup d'envoi de On défait le monde avec toute l'équipe, vous restez bien avec nous dans un instant. Deux voix RTL, deux hommes qui sortent deux livres. Éric Jean-Jean pour la musique 100% française et Florian Gazan pour une histoire de séparation, d'histoire d'amour qui finit mal. Confidence, interview croisée, c'est juste après ceci. Il est 18h34.
RTL Soir.
Soir. Les histoires d'aller.
Qu'il n'y avait pas mieux que ce titre pour parler musique et histoire de cœur. Ce vendredi, avec deux hommes, deux voix maison qui nous accompagnent dans RTL Soir pour feuilleter deux livres et nous offrir même une interview croisée. Monsieur Bonus-Track est là, Éric Jean-Jean en personne est avec nous. Bonsoir Éric. Et bonsoir à Florian Gazan, une grosse tête, un passionné de ballon rond, monsieur grosse cote du samedi matin. Bonsoir Florian.
Bonsoir.
Éric, vous nous parlez musique dans Histoire insolite de la chanson française, c'est publié chez City. Florian, vous signez Ibis aux éditions du Cherche Midi, vos confidences sur une séparation. Une histoire d'amour pas simple. Quelque part, c'est très très lié. Hein. Les histoires d'amour et la chanson et la musique, ah oui, ça arrive vrai. Très très souvent.
C'est vrai.
Éric, ce sont plus de 350 pages passionnantes sur les titres qui ont fait l'histoire de la chanson française. Moi, j'ai appris plein de choses. Pourquoi avoir choisi d'abord le Made in France ?
Parce qu'il fallait bien commencer par quelque chose. Moi, au début, ma culture, elle partait plutôt des années 70, hein, pour aller jusqu'à aujourd'hui. Et puis, on s'est pris au jeu. Pourquoi tu ne vas pas un peu plus ? Et du coup, je suis remonté jusqu'en 1900 et je commence par Viens Poupoule. Et je finis par départ attique et grand corps malade. Donc ça fait un truc très large. Ah oui. J'ai choisi que des tubes, en fait. J'ai choisi les tubes qui ont marqué la mémoire collective française. J'ai pas fait un choix subjectif de chansons que j'aime. Hein. J'ai choisi que des tubes.
Florian, vous êtes musique française, vous ?
Ah, mais je suis très musique en général.
Il écrit des chansons beaucoup. Super.
Ouais, bah oui.
Oui, ça m'est arrivé, mais j'adore la chanson française parce que j'adore cette langue. Donc il y a des tellement beaux textes. Alors oui, j'aime la musique américaine, mais des fois on comprend pas les paroles ou des fois les paroles ne sont absolument stupides.
Voilà, ces titres français qui ont marqué l'histoire, il a fallu que je fasse un tri, un choix.
Aïe.
Et j'ai commencé par un problème. J'ai un problème du duo Vartan-Hallyday. Eric, c'est juin 73, le 45 tours cartonne, alors que les deux vedettes, en fait, n'en voulaient pas. Hein.
Non, mais en fait, il faut aussi remettre dans le contexte. En 73, Johnny et Sylvie sont un peu en perte de vitesse parce que les yéyés sont derrière eux. Et ce qui cartonne dans la France pompidolienne, c'est les duos Stone et Chardin, Ringo et Sheila. Et du coup, c'est le producteur de Johnny qui a l'idée quand même de faire écrire une chanson où ils vont chanter en duo. Sauf que si vous écoutez les paroles, elles sont nazes. Et Johnny et Sylvie s'y trompent pas. Donc, on les amène dans un studio à Londres. Ils commencent à enregistrer les paroles. Et en fait, ils n'arrivent pas à le faire en se regardant dans les yeux parce qu'ils sont morts de rire. Parce qu'ils vraiment, ils trouvent la chanson débile. Donc, on va les isoler pour qu'ils puissent enregistrer la chanson séparément. Et évidemment, quand le 45 tours va arriver, tout le monde va le jouer, particulièrement RTL d'ailleurs, avec Monique Lemarcy qui va se mettre à jouer la chanson en boucle. Et ça va être un tube qui va se vendre à plusieurs millions d'exemplaires. Mais au début, ils n'arrivaient même pas à l'enregistrer tellement ils trouvaient la chanson naze.
Je parlais des histoires d'amour compliquées, Florian. Vous l'illustrez dans votre livre. C'est le premier roman, d'ailleurs.
Oui.
Hein.
Oui.
Ça commence dans une chambre d'hôtel d'un Ibis en faisant référence à une chanson, juste une mise au point de Jackie Quartz.
Exactement.
La mise au point, c'est sur quoi ?
Sur les plus belles images de ma vie.
Sur les clichés trop pâles d'une love story.
C'est les premières images, c'est celles qui sont en train de s'effacer, puisque c'est une rupture. En fait, c'est ma compagne de l'époque, c'était il y a une vingtaine d'années, qui m'a mis à la porte du jour au lendemain. Enfin, pour elle, ça faisait des mois et des mois qu'elle m'envoyait des petits signaux, vous savez, ceux que nous, on ne voit jamais, les hommes, parce qu'on n'a pas le décodeur. Et du coup, je me suis retrouvé effectivement à la rue, mais vraiment, puisque je vivais chez elle, j'avais pas d'appartement, donc je me suis réfugié dans un hôtel. J'étais un peu sonné, j'étais Rocky Balboa, quoi. J'étais au tapis, je comprenais pas ce qui m'arrivait et j'ai essayé de comprendre et écrire a été une forme de, même pas une thérapie, mais d'essayer de me remettre un peu les idées en place, quoi.
C'est hyper courageux de se raconter comme ça. À vous connaître comme ça un petit peu, vous êtes plutôt pudique, non ?
Ouais, très pudique, mais en fait, je pense que l'écriture m'a dépassé. C'est-à-dire que, en fait, c'est vrai que tous les gens qui ont lu le livre et qui m'en parlent sont très étonnés de cette forme d'impudeur, mais moi, je m'en rends pas compte, en fait, d'avoir été impudique en écrivant cette. Le bouquin m'a un peu échappé à ce niveau-là et c'est vrai que finalement, maintenant que quand je me replonge dedans, je raconte des trucs assez crus, assez durs, mais je voulais être très honnête. Et par exemple, je voulais pas édulcorer le propos. Mon éditeur, à un moment donné, me dit ça, il y a des passages quand même qui sont très durs, faut les enlever. Non, je veux que ce soit vraiment le plus réaliste possible, notamment les mauvais côtés qu'on peut avoir. Quand on est encore amoureux et qu'on essaie de rattraper les branches, parfois on a des comportements de connard. Et je voulais garder ces comportements de connard.
Il y a vraiment un truc, pour le coup, là, c'est tellement bien écrit, en vrai. En vrai, il y a un style littéraire de dingue. C'est aussi ça, peut-être, qui permet de laisser se lire tout ce qui se dit dans ce livre qui est parfois dur, mais t'écris tellement bien.
C'est gentil,
vraiment,
merci.
C'est formidable.
Et puis c'est hyper courageux, parce que s'il fallait qu'on raconte nos vies cabossées...
Il y aurait plusieurs tomes, non ?
Alors pour Florian, c'est Elodie. Pour Christophe, le chanteur, c'est Aline, évidemment.
Et j'ai crié.
L'histoire d'Aline, elle est assez incroyable, Eric Jean-Jean.
Ouais, alors déjà, techniquement, il n'a pas pu crier Aline parce que c'était une assistante dentaire, donc ça fait Aline ! C'est pas très pratique. Non, mais... En fait, non, l'idée, c'est Christophe, il a une amoureuse qui s'appelle Sophie, et il part faire son service militaire, et quand il revient de son service militaire, Sophie, elle est tombée dans d'autres bras, donc il écrira une chanson qui n'a pas marché du tout, d'ailleurs, pour qu'elle revienne, revient Sophie. Et voilà, alors, il va faire deux choses. Il va d'abord séduire la meilleure copine de sa fiancée de l'époque, qui sera d'ailleurs sur la pochette du 45 tours. Et puis il va écrire cette chanson d'amour et la chanson d'amour est en effet inspirée d'une petite assistante dentaire qu'il avait rencontrée. Je pense qu'il tentait de la séduire, c'était un grand séducteur et voilà, mais vraiment le vrai mot ça aurait dû être Aline.
Ça a marché très très fort.
Ouais, c'est un énorme carton, puis c'est un slow intemporel, c'est quelque chose qui va réussir à traverser les temps, notamment parce que Christophe, qui était un type qui aimait beaucoup travailler les sons, la dernière fois que je l'ai entendu chanter Aline, c'était Appelé Yel, et en fait il avait pris une chanson de Radiohead qui s'appelle Creep, et il avait fait un bootleg avec Aline. Donc vous prenez Radiohead, Creep, avec une rythmique très cassante comme ça de ce groupe anglais, et dessus il y avait les paroles d'Aline, et en fait ça collait mais incroyablement. C'est-à-dire qu'il a réussi réussi à rendre cette chanson qui est un peu tapée quand vous l'écoutez comme ça, parce que c'est les années 60.
Ouais, des heures de route, Aline, quoi. Elle...
Qui a lu ce bouquin dans cet entourage que vous racontez, Florian Gazan? Est-ce que Elodie, elle l'a reçu?
Alors, elle, là, je lui ai remis en main propre, parce qu'aujourd'hui, on s'entend extrêmement bien. Elle appartient à la suite de ma vie que je raconterai peut-être dans un autre livre. Tous les gens qui sont dedans, globalement, l'ont lu. Le plus compliqué pour moi, c'était ma maman, finalement, parce que quelque part, je critique, entre guillemets, on a tous un regard un peu vachard sur nos parents, on les aime à la folie, mais on sait que voilà, par moments, ils ont été un peu durs dans l'éducation avec nous, que parfois, ils comprenaient pas nos vies, ils comprenaient pas ce qu'on pouvait ressentir, parce qu'on n'est pas vraiment des mêmes générations, donc voilà, je parle un peu de ça, et puis ça renvoie aussi à mon enfance, à mon papa, donc voilà, mon papa, malheureusement, est décédé, mais ma maman, j'avais une petite appréhension, alors heureusement, elle lit très lentement, donc je suis même pas sûr qu'elle ait terminé, peut-être qu'elle est pas encore arrivée au chapitre qui vont pas, mais pour le moment, ça se passe bien.
82, Les Corons, c'est le carton de Pierre Bachelet. Et moi, je découvre dans votre livre avec Jean-Jean qu'il a débarqué dans le monde de la musique par le cinéma érotique, en fait.
Ouais, bah oui, en fait, alors, il a même commencé avant, il faisait des musiques de jingle, il faisait des pubs, etc., il faisait plein de trucs, et Just Jacquin lui propose de faire la musique d'Emmanuel. Et c'est comme ça qu'il devient plus ou moins connu. Et en fait, au début, d'ailleurs, la musique avait été proposée à Serge Gainsbourg, qui sentait pas du tout le truc. Alors, il fera Emmanuel 2, d'ailleurs, Gainsbourg, hein. Mais en l'occurrence, là, il fait Emmanuel. Du coup, dans la foulée, bah, il va commencer à faire des chansons, lui, en solo, alors que c'est plutôt un musicien qui travaillait pour les autres. Il va faire une première chanson qui va être un gros succès qui s'appelle « Aller d'ailleurs ». Et puis cette chanson, elle a une histoire assez jolie parce que c'est une histoire de conversation, vous savez, comme on peut tous en avoir à la fin, par exemple, de cette interview. Lui, il est avec son parolier, puis il commence à réfléchir, puis il leur manque une chanson. On boit des coups, on discute, et puis Bachelet raconte à son pote que quand il était petit, chez lui, il y avait du noir à la maison parce qu'en fait, sa famille descendait dans la mine, voilà, les corons, machin. Et puis voilà comment est né le début de l'idée de cette chanson qui va devenir un hymne et qui aujourd'hui, d'ailleurs, pour les footeux que vous êtes, les gars, est un hymne de stade, le stade Bollaert. Hein.
Absolument.
Racing Club de Lens.
Deuxième mi-temps. Hein.
Deuxième mi-temps. Coup d'envoi de deuxième mi-temps. Les corons systématiquement. Et d'ailleurs, quand Pierre Bachelet est décédé, sa femme était dans les tribunes et tout le stade a chanté les corons. C'était un beau moment.
Je voudrais qu'on termine avec un homme à femme, en tous les cas, qui a dû connaître pas mal d'histoires d'amour.
C'est pas Florent Gazan.
Non, c'est Bruel. Patrick Bruel, avec qui a le droit.
Qui a le droit?
Ça, c'est décembre 91, Eric. Ouais. C'est la première fois qu'un titre enregistré en public est en tête des ventes.
Ouais, c'est un énorme carton. C'est une chanson qui devait faire partie de l'album. Et Patrick, un peu par pudeur, avait pas trop voulu que ça sorte, tout simplement parce que, en fait, c'est une chanson qui parle de l'absence du père. Mmh. C'est-à-dire que Patrick a été élevé par sa maman, puis après par le nouveau mari de sa maman, avec ses demi-frères qui travaillent d'ailleurs pour certains dans la musique. Et en fait, voilà, il raconte l'histoire de ce père qui a abandonné sa mère. Et puis voilà, l'album sort, et puis Patrick faisait ça souvent en rappel. On se rappelle tous de cette image du rappel de Bruel sur scène qui arrive face à un projecteur, ça découpe sa silhouette avec ce grand manteau et voilà. C'est une chanson qu'il a du mal à chanter, aujourd'hui encore. Hein. Et donc, cette chanson va bouleverser, va toucher le cœur des gens et va être un énorme succès au point que, elle va ressortir en single live. Et oui, en effet, c'est un énorme carton.
C'était un plaisir de vous accompagner tous les deux. Je voudrais juste qu'on termine avec du rap parce que j'adore le fait que vous mettiez en avant des artistes de rap.
Il y en a.
Parce que ça fait partie de notre société. Aujourd'hui,
ça se termine là-dessus. Mais Stéphane, ça fait partie de la culture aujourd'hui.
Culture, absolument.
La culture urbaine est ce qui se vend le plus en musique aujourd'hui. Il ne faut pas passer à côté.
Et notamment Soprano, qui a été le premier rappeur à remplir le plus beau stade de France.
Ton stade.
Le Vélodrome. Le Vélodrome, oui. Je m'y suis produit, c'est vrai.
C'est vrai, t'as fait quoi?
Avec une tournée avec une radio concurrente. Sauf que tout le monde savait que j'étais supporter de l'autre club. C'est-à-dire que je suis rentré, je suis un peu les fesses. Hein.
Ça a été long. Florian Gazan, Ibis, c'est aux éditions Cherche Midi, c'est à lire évidemment, et puis Eric Jean-Jean, c'est précieux, c'est riche, il y a plein de choses à découvrir, c'est histoire insolite de la chanson française.
Merci.
Chez City. Merci à tous les deux,
beaucoup.
Les garçons.
Merci. Merci.
Salut.
Le
job
s'habille plus en pada.
Très bon début de soirée, merci d'écouter RTL Soir. Eric Brunet en personne s'installe pour sa semaine. C'est en fort, il a des choses à nous dire, à tout de suite.
RTL Soir.
RTL Soir. Avec Stéphane Carpentier.
La parole à Éric Brunet, comme tous les vendredis dans RTL Soir. Bonsoir Éric.
Bonsoir Stéphane.
Pour vos temps forts de la semaine, et d'abord lundi, on apprenait que des employés, 80, de l'hôpital Hadassah à Jérusalem, étaient placés en congé sans solde, Éric, pour avoir refusé de se faire vacciner.
80 sur 6500 employés, des médecins, des infirmiers, ainsi que des administratifs. En Israël, d'ailleurs, tout employé refusant d'être vacciné ne peut pas être embauché dans un hôpital. Un vrai contraste avec la France, hein, dans les EHPAD, par exemple, chez nous, 42% des soignants sont vaccinés seulement. Conséquence, d'ailleurs, en France, depuis le début de l'épidémie, 44 000 personnes ont contracté le virus en milieu hospitalier. Et dans un tiers des cas, c'est un personnel de santé qui est à l'origine de la contamination. En gros, vous venez à l'hôpital pour une appendicite et vous risquez de finir en réa avec le Covid. D'où l'idée, de plus en plus avancée, de rendre obligatoire la vaccination du personnel médical. Eh bien, moi, j'y suis favorable, Stéphane. Après tout, les soignants doivent déjà se faire vacciner contre la diphtérie, le tétanos, la polio, contre l'hépatite B. On ne pourra pas lutter efficacement contre le virus tant que tous les infirmiers et les aides-soignants ne sont pas immunisés. En attendant, d'ailleurs, en Israël, la vie reprend. 85% des plus de 40 ans ont été vaccinés et le nombre de nouveaux cas, de décès, ne cesse de reculer.
Autre fait qui suscite vos commentaires, Éric Brunet, c'était mercredi, la directrice de l'Institut d'études politiques de Grenoble a condamné les collages accusant deux professeurs d'islamophobie.
Et oui, ces deux professeurs de Sciences Po Grenoble accusés d'islamophobie ont vu leur nom placardé quand même devant l'établissement avec ce slogan « Des fascistes dans nos amphis, l'islamophobie tue ». Ouais, le syndicat étudiant l'UNEF a en quelque sorte revendiqué le truc, hein, en disant « À Sciences Po Grenoble, des propos que nous considérons comme islamophobes, racistes et réactionnaires » ont été tenus par ces enseignants, il est de notre devoir de les dénoncer. Il y a un côté délation que je n'aime pas trop, hein, et qui renvoie d'ailleurs à l'affaire Samuel Paty, dont le nom avait été jeté en pâture aussi, hein, sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Aurore Berger, la députée, a accusé l'UNEF d'avoir placé une cible dans le dos de ses enseignants. Il faut être aveugle pour ne pas voir la dérive de ce syndicat étudiant qui était jadis tenu par le Parti Socialiste. Depuis une dizaine d'années, l'UNEF a abandonné la défense des étudiants au profit des combats intersectionnels. L'UNEF a promu les réunions interdites aux blancs, souvenez-vous, aux hommes. L'UNEF a censuré des pièces de théâtre, des conférenciers. L'UNEF a promu des responsables voilés. Pas besoin de longue enquête pour comprendre que c'est une dérive islamo-gauchiste. Lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris, certains cadres de ce syndicat se sont moqués de l'émotion populaire en parlant de délire de petits blancs. Bref, l'écrivain Pierre Jourde résume bien les choses. C'est un ancien responsable de l'UNEF. Il dit « C'est un syndicat de talibans, idiots, totalitaires, analphabètes et obscurantistes. » Ça pourrait faire sourire, sauf que en France, l'islamophobie tue parfois ceux qui en sont accusés. Les dessinateurs de Charlie Hebdo, par exemple, ou Samuel Paty.
Autre sujet, c'était mercredi, Éric Brunet. On apprenait que Warner Bros. Avait décidé de supprimer du prochain Space Jam le personnage de Pépé le Putois, accusé d'inciter à la culture du viol.
Oui, à chaque semaine, son lot d'œuvres victimes de la censure. Hein. C'est désormais ce fameux Pépé le Putois. En anglais, c'est Pépé the Pew. Vous savez, c'est dans le dessin animé créé par Chuck Jones. Vous savez, les fameux Looney Tunes avec Bugs Bunny, avec Daffy Duck. Pour ceux qui ne s'en rappellent plus, Pépé le Putois, c'est une sorte de petite moufette noire et blanche à l'odeur pestilentielle et obsédée par les femmes. Tout est parti d'une tribune du New York Times dans laquelle Pépé le Putois est accusé de normaliser la culture du viol. Conséquence, la Warner a annoncé cette semaine que le personnage sera supprimé du prochain film Space Jam, alors que sa scène avait été tournée. Et le personnage devrait également être carrément censuré de ses vieux dessins animés des années 40-50. Évidemment, je trouve cette décision ridicule. C'est comme si on supprimait le coyote, vous savez, dans les mêmes dessins animés, parce qu'il cherche à manger Bip Bip, ou Elmer le chasseur, parce qu'il veut tuer Bugs Bunny.
Et puis mercredi également, Éric Brunet, le Huffington Post a publié en exclusivité la liste des 318 personnalités issues de la diversité qu'Emmanuel Macron veut honorer.
Ah, vous vous souvenez, hein, Macron avait dit je vais constituer une liste de 300 à 500 personnalités issues des Outre-mer, des anciennes colonies, de l'immigration, pour renouveler les noms des rues
et des bâtiments publics pour qu'il y ait une meilleure représentation de l'histoire française dans l'espace public. Bon, premier hic, l'histoire est dirigée par l'historien Pascal Blanchard, une des figures du courant décolonial. Certains disent il est islamo-gauchiste. Bon, on note que la plupart des personnalités, et c'est ça qui est étrange, qui sont retenues dans la liste, n'ont rien à voir avec l'histoire coloniale. Il y a des Belges, il y a des Suisses, il y a des Italiens, des Espagnols, des Allemands, des Russes. Certaines ont un parent français, d'autres n'ont jamais eu la nationalité française et ont simplement résidé chez nous. J'ai beaucoup de mal à voir en quoi nommer une rue Blaise Cendrars, qui était quand même un écrivain issu de la bourgeoisie suisse, améliorerait la diversité dans l'espace public. Et puis après tout, il y a déjà des rues Churchill en France. Moi, j'habite dans une rue Kennedy. On trouve également dans cette liste, alors là c'est étrange, des personnalités dont les noms sont déjà immortalisés dans tous les patelins de France. Par exemple, Macron nous propose des rues Émile Zola, mais il y en a partout. Des rues Salvador Dali, mais il y en a déjà. Dans la liste de Macron, on trouve aussi des Coluche, Annie Cordy, Dalida, des leaders indépendantistes qui ont pris les armes contre la France, c'est assez curieux, et des soldats morts en opération extérieure. Cette liste est vraiment curieuse, Stéphane, parce qu'au fond, les maires de nos communes en France, qu'ils soient de gauche ou de droite, ont fait le travail depuis des années. Il y a par exemple des rues Félix Éboué, un personnage fantastique, hein, premier gouverneur à rejoindre la France libre en 1940. Il y a des rues et des places Gaston Monnerville, c'était le président du Sénat sous De Gaulle, troisième personnage de l'État, un noir bien évidemment. Tiens, Blaise Diagne, premier député africain élu à la Chambre des députés française en 1914. Voilà, il faut le rappeler, parce qu'on a le sentiment, en écoutant Macron, que finalement nos élus ne sélectionnent que des gens, des mâles blancs de plus de 50 ans. Et une petite comparaison, tiens, pour terminer, le premier joueur noir sélectionné dans l'équipe de France de foot s'appelait Raoul Diagne en 1931, alors que le premier joueur noir sélectionné dans l'équipe d'Angleterre, c'était Vive Anderson 1978, presque 50 ans plus tard. Alors, monsieur le président de la République, monsieur Macron, nos élus s'occupent de la diversité depuis longtemps, très longtemps. Alors avec votre liste, avec Annie Cordy et Dalida, monsieur le président, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'elle est vraiment facultative ou obligatoire, cette liste ?
C'est Éric Brunet qui s'interroge dans RTL Soir. La suite, c'est Où va la France, Éric ? Pour 60 minutes de débat sur l'actualité, c'est dimanche, 13h, 14h. Bonne soirée.
Bonne soirée.
18h57, vous restez bien là, c'est toute l'actualité qui arrive avec le journal de Aude Vernuccio. Et puisque nous sommes vendredi, 19h15, le coup d'envoi de On défait le monde. À tout de suite.
RTL Soir.
Nous sommes le vendredi 12 mars 2021. Soyez tous les bienvenus, c'est RTL Soir. Nous sommes aux portes de 19h.
RTL Soir. Avec Stéphane Carpentier.
Et Aude Vernuccio pour le journal de 19h. Bonsoir Aude.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous.
À la une, la Haute Autorité de Santé qui donne son feu vert à un quatrième vaccin anti-Covid.
À celui de Johnson & Johnson qui s'administre en une seule dose. Polémique au sein de l'Union Européenne, le chancelier autrichien dénonce des contrats de vaccins secrets. Elle touche une femme sur dix en âge de procréer, l'endométriose. Olivier Véran demande une stratégie nationale contre cette maladie. Et puis en rugby, J-1 avant Angleterre-France.
À la fin du journal, ce sera la météo de demain, ce sera agité. Et dans la foulée, on défait le monde comme tous les vendredis.
RTL Soir.
Après le feu vert de l'Union européenne hier, celui de la France aujourd'hui pour un quatrième vaccin anti-Covid, la Haute Autorité de Santé valide le Johnson & Johnson. L'un des principaux avantages à Gatlandais, c'est qu'il est efficace sur les variants.
Oui, car lors des études cliniques, ce vaccin a été testé notamment en Afrique du Sud et au Brésil, là où sont majoritaires deux variants qui sont aujourd'hui sur notre territoire. Il est donc le seul dont nous sommes certains de l'efficacité, y compris sur les variants. La HAS recommande donc de l'utiliser dans les zones les plus impactées par ces variants, sud-africains et brésiliens. Aujourd'hui, ce serait donc plutôt dans l'est de la France, mais cela aura peut-être changé d'ici à ce que l'on reçoive les premières doses Janssen, au mieux à la mi-avril. Autre avantage de ce vaccin, il est monodose, pas besoin de deux injections et il se conserve très facilement. Il pourra donc être réservé à des populations qui ont un accès difficile aux soins, comme l'explique Dominique Le Guludec, présidente de la HAS.
Ce vaccin Janssen est particulièrement adapté aux personnes éloignées du système de santé, en situation de précarité sociale et économique ou en situation de handicap, éprouvant des difficultés à se déplacer.
Le vaccin Janssen protège à 77% des formes sévères du Covid et il est également très bien toléré. Les effets secondaires sont légers. Les plus courants sont une douleur au bras après la piqûre et des migraines et courbatures passagères.
Agathe Landais pour RTL. Vent d'inquiétude en revanche autour du vaccin d'AstraZeneca alors que 4 pays suspendent les injections. L'Organisation mondiale de la santé déclare qu'il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser. Le laboratoire tente aussi de rassurer. Nous n'avons vu aucune preuve de risque aggravé d'embolie pulmonaire ou de thrombose, défend un responsable.
Les vaccins et cette question, la solidarité européenne est-elle en train de se fissurer?
Le chancelier autrichien Sébastien Kurz remet en question la répartition des vaccins entre les 27 membres de l'Union européenne et il dénonce même des contrats secrets. Bénédicte Tassard, bonsoir.
Bonsoir.
Y a-t-il des preuves à ces accusations?
Alors, pour l'instant, ce sont juste des allégations. Sébastien Kurz soupçonne, par exemple, Malte de recevoir d'ici l'été 3 fois plus de doses que la Bulgarie, en proportion de son nombre d'habitants, bien sûr. Aucune preuve à l'appui, mais un gros coup de colère auquel la Commission européenne a rétorqué quelques minutes plus tard, en rappelant les règles. Une palette de vaccins est divisée entre les 27 selon la taille de leur population. Après, si certains pays ne veulent pas de leur part, préférant attendre les doses d'un autre laboratoire, les vaccins qui restent sur le carreau sont à nouveau partagés sous l'égide d'un comité de pilotage dans lequel sont représentés tous les pays, y compris l'Autriche, en personne d'un membre de son ministère de la Santé. Donc, Sébastien Kurz serait au courant d'un quelconque dysfonctionnement. Le vrai souci, c'est que certaines capitales regrettent d'avoir misé sur l'AstraZeneca, qui accuse de gros retards de livraison, et que d'autres remettent en question le mécanisme de répartition. Ils préféraient ainsi que les pays avec le plus fort taux de mortalité soient privilégiés.
Bénédicte Tassard pour RTL. La France dépasse ce soir le seuil très symbolique des 4000 patients en réanimation. Une première depuis le mois de novembre. Le Premier ministre Jean Castex est en ce moment en déplacement à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière. L'Île-de-France, où les hôpitaux saturent, des dizaines, voire des centaines de malades vont être évacués vers d'autres régions. Sur RTL, le professeur Gilles Pialou se dit très préoccupé. Il estime que la situation ne peut qu'empirer, ce sont ses mots. Et le scénario d'un éventuel reconfinement est évoqué au gouvernement, selon nos informations. S'agirait-il d'un confinement le week-end ou total ? En tout cas, le chef de l'État ne souhaite pas à nouveau fermer les écoles.
Sur le front de l'économie, Aude, le gouvernement avait promis un geste pour les travailleurs dits de deuxième ligne, caissiers, livreurs qui continuent de travailler en confinement ou en couvre-feu. Une prime défiscalisée est envisagée, loin de calmer leur colère.
À Lyon, une cinquantaine de livreurs a manifesté cet après-midi devant les locaux d'Uber, qui fournit aussi un service de livraison à domicile. Une prime, c'est bien, mais c'est un vrai statut qu'ils réclament, Raphaël Vantard.
Ce combat pour un vrai statut social prend la forme d'un rituel. Presque tous les vendredis, une cinquantaine de livreurs à vélo, à scooter ou en voiture se réunissent, mangent ensemble devant les locaux d'une de ces plateformes en ligne, Uber Eats. Franck est l'un d'entre eux, il le dit sans détour. Il ne veut pas d'une prime du gouvernement pour avoir été en première ligne, lui aussi, pendant le premier confinement. Ce qu'il veut, c'est une vraie situation sociale.
Ça me fait rien une prime, s'ils m'en mettent toute l'année, pourquoi pas? Mais si c'est qu'une pour avoir participé à l'effort, à ce compte-là, ils se la gardent, j'en veux pas. Qu'ils fassent leur travail auprès des plateformes, qu'ils les contraignent à payer les cotisations et que nous, on ne se retrouve pas dans la merde sur l'appui d'un simple bouton. Plus de travail, plus d'emploi et on se retrouve à galérer.
Ludo, membre du syndicat CGT, est en procédure au prud'homme pour obtenir ce statut de salarié passeport pour toute une protection sociale à laquelle aujourd'hui, en 2021 en France, il n'a pas droit.
Bah, légalement, ça avance. Ça avance surtout dans les autres pays qu'en France. Ça fait des années qu'ils baissent les rémunérations, que ce soit Deliveroo ou Uber. Et donc maintenant, aujourd'hui, on en a marre et c'est y compris la revendication principale de la grève qu'on mène depuis le mois d'octobre à Lyon.
Pour ces livreurs lyonnais, la création d'un vrai statut social est urgente. Chaque jour, la crise pousse de nouveaux chômeurs parfois désespérés à devenir livreurs. Une main-d'œuvre abondante qui ne pousse pas vraiment les plateformes à augmenter les prix des livraisons et les acquis sociaux.
Reportage signé Raphaël Vantard à Lyon pour RTL. Les 350 salariés de la fonderie de Bretagne abasourdis au lendemain de l'annonce de Renault. La marque aux losanges a annoncé qu'elle allait mettre en vente le site et cherche déjà un repreneur. La particularité de ce site, c'est qu'on y travaillait de père en fils, explique David. Un salarié, il est complètement assommé.
Ouais, c'est vraiment un coup de massue, ouais, c'est clair. On est carrément perdu. Enfin, moi, personnellement, je suis perdu. J'arrive même pas à trouver une raison là-dedans, en fait, j'arrive même pas. Ça fait 20 ans que j'y travaille. En plus, mon père a travaillé là, j'ai de la famille qui a travaillé là. Ah ouais, là, on prend un coup, hein, c'est clair. Hein. J'ai du mal à raisonner sur ça, en fait. Je suis au bout de 20 ans ici, repartir ailleurs, ouais, ça va pas être simple, quoi.
Et vous allez vous battre?
Ah ouais, oui, bien entendu, on va se battre. Hein. On est habitué à ça. Hein. C'est évident qu'on va se battre, hein. On va pas laisser ça comme ça.
Des propos recueillis par Nicolas Bobby dans le Morbihan pour RTL.
19h06 en ce vendredi soir, la suite de RTL Soir dans un instant avec 5 personnes jugées après la mort du petit Léo, 7 ans, écrasé par un camion. C'était sur une aire piétonne, c'était en 2017. A tout de suite.
RTL Soir. RTL Soir. Avec Stéphane Carpentier.
Et à 19h08, la suite du journal d'Aude Vernuccio. Il s'appelait donc Léo, il n'avait que 7 ans. Le petit garçon est mort percuté par un camion pendant les vacances d'été en 2017.
Et 5 personnes sont jugées aujourd'hui à Albertville pour homicide involontaire et imprudence. Les faits se sont déroulés sur une aire réservée aux piétons à la Plagne, en Savoie. Un chauffeur de camion y livrait pourtant un conteneur dans le cadre d'une campagne publicitaire et il n'avait pas mis son frein à main. Au tribunal, les prévenus se sont renvoyés. Voyez la balle, Serge Puyot.
À la barre, le directeur de l'office du tourisme de La Plagne explique « Je n'avais pas reçu d'autorisation de la mairie pour que ce camion pénètre dans ce secteur piétonnier. Je pensais que la société organisatrice de l'événement l'avait demandé de son côté. » Réponse de la chef de projet de la dite société « Je pensais que c'était le rôle de l'office du tourisme d'obtenir ces autorisations. » Thomas, le père de Léo, est effondré.
Des gens qui se dédouanent de toute responsabilité et qui se rejettent les uns sur les autres la responsabilité, en fait. Donc c'est très, très difficile à nous de rester calme en entendant tout ça.
La procureure requiert la condamnation des organisateurs de cette opération à 1 an de prison avec sursis et réclame également 18 mois de prison avec sursis contre le chauffeur du camion qui avait oublié de serrer son frein à main. Ludovic, ce chauffeur, témoigne en pensant aux parents de Léo.
Ils ont perdu leur enfant, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je suis désolé, plus que désolé. Je l'ai dit, j'aurais préféré mourir à sa place. C'était à moi de mourir, pas à lui. Ça fait 4 ans que je dors plus, que j'ai vécu.
Le jugement du tribunal a été mis en délibéré au 16 avril.
Serge Puyot pour RTL. Une nouvelle rixe entrado à Lyon cet après-midi. Des jeunes du Pôle France de futsal ont été attaqués par une bande. Ils ont réussi pour la plupart à s'enfuir, mais l'un d'entre eux a été blessé au couteau. Ses jours ne sont pas en danger. Et puis Doc Gynéco sera jugé en correctionnel pour violence conjugale. L'artiste avait été placé en garde à vue mercredi. Il a été placé sous contrôle judiciaire.
Arrêtons-nous à présent, Aude, sur un phénomène tabou qui touche pourtant une femme sur 10 en âge de procréer, l'endométriose. Le ministre de la Santé annonce une stratégie nationale d'ici la fin avril.
C'est la première cause d'absentéisme à l'école et au travail pour les femmes. Et pourtant, cette maladie inflammatoire chronique de l'utérus et des trompes met en moyenne 7 ans à être diagnostiquée. Clarisse, 35 ans, raconte avec émotion son parcours du combattant.
Les douleurs, j'ai commencé les douleurs à partir de 20 ans. Je me pliais en deux, je pouvais pas dormir au lit, et des crampes, les ballonnements de ventre, tout ça. Et au soir, il fallait me mettre dans un bain chaud. J'avais l'impression de perdre mes intestins, mon appareil génital. J'étais obligée de me faire arrêter chaque mois quand j'avais mes règles. Et les médecins me disaient que c'était normal, que c'était des règles douloureuses. Peut-être qu'avec le temps, ça va disparaître. J'ai perdu 8 ans dans la souffrance sans que j'aie quelqu'un pour m'orienter exactement. Dans ce parcours, j'avais perdu l'espoir. Mais c'est vers la fin, en 2020, là, je suis tombée sur un bon médecin. Là, je me suis dit, enfin, je vais pouvoir vivre comme tout le monde, comme les autres. Pour moi, je dirais aux femmes de bien se renseigner, trouver vraiment les gens qui sont vraiment spécialisés dans l'endométriose, être bien pris en charge, oui.
Un témoignage recueilli par Odile Pouget pour RTL.
On passe au rugby et au tournoi des 6 nations J-1 avant le match Angleterre-France.
Au coup d'envoi demain à 17h45, le capitaine Charles Olivon vient de terminer sa conférence de presse d'avant-match à Twickenham. Cette fois, on parle de jeu, clairement, Jean-Michel Rascol.
Et même de l'enjeu de ce match, un succès demain sur le 15 de la Rose, en plus de combler un vide de 16 années de disette à Twickenham, dégagerait un peu plus l'autoroute du Grand Chelem. Une expression que les joueurs gardent pour l'instant pour eux, sans en nier l'évidence. Grégory Aldrit, troisième ligne du 15 de France.
On s'est dit au début du tournoi que, bien sûr, on voulait gagner tous les matchs, qu'on était des compétiteurs, mais on prend les matchs un après les autres. Et je pense qu'à l'heure actuelle, penser au Grand Chelem, ça serait un peu trop tôt. Il y a un match qui est capital ce week-end. C'est sur ce match qu'on doit se concentrer. Et si on fait les choses dans l'ordre, on pourra se permettre de rêver de Grand Chelem plus tard.
Car l'anglais, s'il semble mal en point dans ce tournoi, si son indiscipline a fait le bonheur des Écossais et des Gallois, il reste un peu le propriétaire de la chose ovale. Comme l'a dit un jour Casque d'Or, les Anglais ne perdent jamais, mais parfois, on les bat. Casque d'Or, Aude, c'est Jean-Pierre Rive.
Absolument.
Il y avait un piège.
C'était un test.
Jean-Michel Rascol, merci pour cette information.
Merci à tous les deux. Ce soir, il y a Valonron, hein. C'est Reims-Lyon, le match de Ligue 1, 21h, le coup d'envoi. Il n'y a pas de RTL Foot parce qu'on laisse la place au cinéma. Ce soir, c'est la 46e édition des Césars. C'est à vivre en direct sur RTL dès 20h, autour de Stéphane Boutsock, Vincent Perrault et Dominique Besnéard, s'il vous plaît. Le temps demain avec Claire. Donc, on le disait, ciel très agité. Hein.
Oui, très agité, surtout pour la moitié nord, puisqu'au lever du jour, une nouvelle perturbation va rentrer donc par le nord-ouest. Ça commencera donc par la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France. Et puis progressivement, au fil de la journée, cette perturbation elle va glisser, se décaler vers le nord de l'Aquitaine, les régions centrales, en passant aussi par la région Rhône-Alpes et le Grand Est. Donc elle va porter des pluies, beaucoup de vent. À l'avant, en revanche, on aura des passages nuageux entrecoupés, quand même de belles éclaircies qui seront largement majoritaires près de la Méditerranée. Et puis à l'arrière de cette perturbation, là aussi dans l'après-midi, on va retrouver quelques timides éclaircies, mais avec cependant de bonnes averses qui pourront même être localement orageuses près du Cotentin ou encore vers le Hauts-de-France. Et puis pour les températures, eh bien, comptez pour la moitié nord entre 5 et 7 degrés en matinée, 3 et 8 degrés pour la moitié sud. Et puis dans l'après-midi, une température globale entre 11 et 13 sur l'ensemble du pays avec des pointes à plus de 17 degrés encore près de la Méditerranée.
Merci Claire, on a tout compris, c'est bien complet. Vous avez toute l'actualité sur l'appli RTL 19h14. Vous restez bien là, si on défait le monde, nous sommes vendredi soir. C'est avec Brice, c'est avec Laurent, c'est avec Cyprien, c'est avec Grégory, c'est avec Marie, bien sûr. Et c'est juste après ceci.
RTL Soir.